Louez le Seigneur. J'apprécie tant que le Seigneur continue de nous parler. Parce que si le Seigneur ne parle plus, alors nous n'avons pas de chemin pour aller de l'avant. Je crois que tous les saints peuvent remarquer que ce n'est pas les frères qui parlent ou qui ont parlé, mais c'est le Seigneur, c'est le Saint-Esprit, c'est l'onction qui nous parle. Comment sinon est-ce que l'Esprit doit nous parler si ce n'est par des frères fidèles? Par la communion. Par les apôtres, par les prophètes. Par les bergers. Et par des modèles dans l'Église. Mais nous devons aussi tous avoir cet esprit de discernement pour que nous n'acceptions pas comme des personnes qui guident aveuglément. Nous n'avons pas besoin de suivre une doctrine. Comme Paul a dit, les prophètes puissent parler un et deux et tous doivent tester, doivent discerner. Parce que nous tous, nous faisons des erreurs. Souvent, nous parlons du non-sens. C'est une responsabilité, pas seulement pour ceux qui parlent la parole de Dieu, mais aussi pour ceux qui entendent. C'est aussi votre responsabilité. Nous sommes assis dans la réunion, pas seulement pour entendre, mais pour discerner, pour tester, pour entendre ce que l'Esprit parle, pas seulement ce que les frères disent. Ce n'est pas si facile de suivre l'agneau, oui, suivre l'agneau Christ. Tous disent cela. Non, ce n'est pas si facile. C'est pour ça que nous devons pleinement comprendre la parole. De suivre l'agneau. Oui. Alors nous devons suivre Paul, Pierre, Jacques, Jean, Matthieu. Comment est-ce que l'Esprit du Seigneur doit annoncer l'Évangile si ce n'est pas par les frères? Par toi, frère? Qui doit annoncer l'Évangile en Hollande si tu ne parles pas? Nous annonçons. Et comment l'Esprit doit annoncer dans Éphésiens 2, après la crucifixion et la résurrection, Christ est venu pour annoncer l'Évangile. Comment est-ce qu'il a fait cela? D'annoncer l'Évangile. Si ce n'est pas par Pierre, à la Pentecôte. Qui c'est qui a parlé à la Pentecôte? L'Esprit de Jésus? Ou est-ce que c'était Pierre? Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit doit envoyer Pierre à Jacques à Antioche? Est-ce que le Saint-Esprit ou le Seigneur lui-même peut aller pour annoncer? Mais est-ce que tu peux te représenter si Paul et Barnabas parlent du non-sens? Et comme Apollo, qui au début n'avait pas reçu, qui ne connaissait pas l'Évangile complet, seulement le baptême de Jean le Baptiste, c'est ce qu'il a annoncé. Les personnes ont reçu le Saint-Esprit. Mais le Seigneur a averti. Il y a tant de faux prophètes. Pour ça que Paul a dit, testez tout, gardez ce qui est bon. Nous ne devons pas tout croire et prendre sans tester. Si nous disons la vérité, chers frères, alors nous n'avons pas peur que les personnes testent. Mais si tu dis des mensonges, et toi-même, tu n'es même pas sûr que tu parles la vérité, alors tu as peur que les personnes testent cela. Mais si nous sommes fidèles de parler la vérité, alors tu peux laisser tout le monde tester, éprouver la parole. D'éprouver donne la vérité toujours plus claire. Pour ça que la foi, notre foi, nous n'avons pas peur de passer par le feu. Parce qu'à la fin, ce sera encore plus clair, plus pur. Tout ce qui est mélangé va être brûlé. Est-ce que ce n'est pas ainsi? Nous devons savoir cela. C'est à Sion, la parole doit être claire. La lumière, la parole du Seigneur doit être claire. La parole du Seigneur doit être claire. Pas de parler du non-sens. Certains disent, fuis les nouvelles doctrines. Ça veut dire, le Seigneur ne parle pas quelque chose de nouveau, parce que si tu entres quelque chose de nouveau, fuis, pars. Est-ce que Paul a dit cela? Fuis le non-sens. Fuis le péché. Les désirs de la chair. Toutes ces choses négatives, tu dois les fuir, mais la parole du Seigneur, tu n'as pas le droit de la fuir. Tu dois obéir. D'apprécier ce que le Seigneur parle. C'est votre responsabilité, la responsabilité de tous les saints de tester. Soyez touchés. Parce qu'ils ont testé, pas simplement pris la parole de Paul. Oui, chacun peut dire, oui, je suis un apôtre. Suis-moi, suivez-moi. Non, nous... Ne pas être aveugle, pas suivre aveuglément. Nous suivons le Seigneur, mais le Seigneur parle par des hommes, par ses apôtres, par des prophètes, par des docteurs dans la Bible. Alors nous devons tous tester. Nous ne sommes pas tous des sacrificateurs. Pas chacun peut amener une offrande au Père. Et ensuite, il dit... Je te montre une porte en arrière. Une porte en arrière? Où est-ce que c'est possible d'avoir une porte en arrière dans le temple? Ce que le Seigneur dans Jean 10 n'a pas dit, il est la porte. Et celui qui entre, ou qui passe par la fenêtre, par la porte arrière, si tu ne connais pas Jean 10, alors tu penses? Et quelle est la porte en arrière? Alors le frère dit, je ne vais pas te le dire. Non, non. Dans le temple de Dieu, il y a seulement une porte principale. Nous devons tous apprendre. La parole de Dieu est si précieuse, plus précieuse que l'or. Plus précieuse que l'argent, et vous pensez que c'est seulement une doctrine? Non. C'est notre chandelier pour que nous sachions comment est-ce que nous devons aller de l'avant avec le Seigneur. Comment est-ce que nous pouvons aller de l'avant sans la parole, sans la vérité? La vérité nous rend libres. Nous aimons et apprécions. Nous suivons et nous obéissons. Et il y a un avertissement. Paul a dit une lettre. Si tu prends la parole comme une doctrine et une lettre, alors ça va te tuer. Les pharisiens et les scribes ont aussi pris la parole. Mais qu'est-ce que ça a eu comme efficacité? Qu'est-ce que ça a œuvré? Qu'est-ce que ça a œuvré? La parole est vivante. C'est le Seigneur, le Seigneur lui-même. Jean a dit Dieu lui-même est la parole. C'est l'expression de Dieu et c'est la force. Ça appelle ce que ce n'est pas, ce qui n'était pas. Si tu ne connais pas la parole, alors tu as tes propres représentations. Comment, à quoi ça doit ressembler? Et tu as ta propre interprétation. Et Pierre dit à la fin, ceux qui ne savent pas, les fous, ils tournent la parole. Parce que le cœur est tourné, parce que l'entendement est dans les ténèbres. Alors, ils utilisent la parole pour leur propre bonne pensée. Combien de personnes tournent la parole aujourd'hui? Qui sait qui dit après le salut, alors tu vas peut-être dans les cieux. Tu es déjà qualifié pour entrer dans les cieux. Et pour eux, le ciel, c'est un paradis où c'est qu'ils doivent aller. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est une doctrine diabolique. Et chacun croit cela. J'aimerais vous dire, aucun message d'homme peut remplacer la parole vivante et vivante de Dieu. Aucun livre qui est écrit par les hommes peut remplacer cette parole, la Bible. C'est égal combien cet homme était capable, ou combien est-ce qu'il est spirituel. C'est égal combien est-ce qu'il est spirituel. Son livre n'est pas un livre saint, mais ce livre, c'est l'Écriture sainte. Et aucune écriture d'un homme peut remplacer la Bible, la parole de Dieu. C'est pour ça que c'est bon pour nous-mêmes, de lire la Bible et de prendre ce que l'Esprit est vie et d'obéir. Oui. Les paroles des hommes ne peuvent pas remplacer la parole de Dieu. Pour ça que nous avons à la fin dans la parole de Dieu. Résumé de la parole de Dieu dans le psaume 19. Alors, il y a encore le psaume 119. De lire et de voir chaque alphabet. C'est la réalité, la parole de Dieu. Pour ça que le Seigneur dit, je suis l'alpha jusqu'à l'oméga. De quoi? Le nom du Seigneur, c'est alpha, ABCD. Qui est ABCD pour toi? Tes lettres. Là, nous devons voir. Chaque lettre est le Seigneur. Il est la parole. Il est le commencement, il est la fin. Il est le premier, il est le dernier. Non, pas toi, tu n'es le premier. Personne parmi nous est qualifié d'être le dernier. Le plus grand pécheur, oui, ça tu es qualifié, moi aussi. Le Seigneur est tout et en tous, c'est ce que Paul a dit. Dans Colossiens 3, verset 11, Christ est tout et en tous. Est-ce que Christ n'est pas tout pour toi? Nous pensons, nous savons. Mes chers frères et sœurs, nous savons si peu. Tu ne peux pas te le représenter. Nous savons si peu, même toi-même, tu ne te connais pas. Combien est-ce que tu te connais toi-même, frère? après tant d'années. Combien est-ce que tu connais? Gentiment un peu mieux, mais pendant longtemps pas assez. Pour moi, exactement la même chose. Je pensais que je me connaissais. Chaque jour, j'ai vu, c'est terrible, je ne me connais pas. Comment est-ce que tu dois connaître Dieu? Connaître Dieu. Quelle mesure. Et ensuite, ils veulent encore devenir Dieu. Oh, terrible. C'est ainsi que nous sommes dans notre humanité humaine. Et même si nous partageons la parole, alors nous partageons seulement si peu de ce que nous savons. Mais il y a plus, encore plus. On peut peut-être lire maintenant, lire le psaume 19 ensemble. Psaume 19, 8 à 15. Où est-ce que j'ai ma Bible? Psaume. On peut aller au psaume. Psaume 19. Voilà, traduction. À partir du verset 8, la loi, les Écritures que l'Éternel a dit, elles sont justes. Elles sont parfaites. Elles réjouissent le cœur. Il lit traduction en allemand. Il y a de la joie dans le cœur si tu lis la parole. Oups. Il est devenu muet. On ne l'entend plus, il est muet. Il est silencieux, il n'a plus le son. Oh non, on ne l'entend plus. Normal. Et nous, on ne l'entend plus, mais on essaie de lui dire. Frère, tu es silencieux. Mon ordinateur a sa propre volonté, sa propre désir. Comme nous tous, nous avons aussi notre propre volonté. Nous devons nous repentir. Mon ordinateur doit aussi se repentir. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Il n'y a rien qui est plus pur que la parole de Dieu. Si clair, le Seigneur ne va jamais nous mentir. Non, chaque parole est la vérité. La vérité nous rend libres. Elle illumine les yeux. Nous sommes tous aveugles. Pour ça que nous suivons si aveuglément. Et nous ne testons pas. Nous n'éprouvons pas. Le problème, ce n'est pas que nous suivons. Le problème, c'est que nous suivons aveuglément. C'est le problème. Et ceux qui disent, alors ne suivez pas d'hommes. Alors, qui est-ce qu'ils doivent suivre? On doit les suivre qui ont dit, vous ne devez pas suivre d'hommes, les hommes. Mais nous suivons la parole vivante de Dieu. C'est pour ça que chacun d'entre nous doit lire la parole avec un cœur pur, avec un cœur saint. Pas avec une pensée corrompue. C'est pour ça que nous avons besoin d'être renouvelés dans nos pensées. si nous, déjà souvent, nous avons, nous comprenons pas, que comprenons pas les paroles des hommes. Est-ce que tu n'as pas compris les hommes aussi dans l'Église? Alors, tu es enfoncé. Tu n'as pas compris. Et même si nous parlons quelque chose, alors nous parlons pas clair, que nous ne comprenons pas. Alors nous nous disputons. La parole de Dieu illumine nos yeux. J'aimerais être illuminé. Cette huile, donc ce que nous devons acheter du Seigneur, afin que nos yeux soient moins pour que nous puissions voir. Nous sommes tous nés aveugles, pas aveugles des choses du monde. Pour cela, nous avons des grands yeux, des choses mondaines, mais des choses spirituelles, de les voir. Nous sommes tous aveugles. Pour ça, ce que Jésus, quand il est venu sur cette terre, ils ne l'ont pas connu. Ils étaient aveugles. Le Seigneur a dit, vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Mais ils n'ont pas entendu. Ils n'ont pas entendu une voix spirituelle du Seigneur. Ils n'ont pas vu les choses de Dieu. Bien que c'est devenu devant les yeux, le Seigneur était là, ils ne l'ont pas vu. Sur la parole de Dieu, plein d'esprit et de vie, alors nous ne voyons rien. Tu as la doctrine, mais tu ne vois rien. Et ensuite, la crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Si nous venons à la parole de Dieu, notre cœur est si important. Le respect du Seigneur, parole du Seigneur, nous devons la voir, l'apprécier. Nous parlons la parole du Seigneur d'une manière si légère. Comme je pense, alors je parle et Paul a dit, vous voulez, qu'est-ce que vous voulez voir? Vous voulez avoir une preuve qui parle en moi? Nous devons avoir ce désir et tester qui c'est qui parle. Mais si je n'ai pas de crainte de l'Éternel et j'entends seulement quelque chose et ils entendent, alors cette personne a dit, alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Sans le respect du Seigneur dans notre cœur, alors nous venons avec la parole, c'est pas étonnant que nous avons tant de pensées bizarres, et c'est dans notre pensée corrompue, dans nos pensées des ténèbres sombres, d'un cœur endurci. Pour ça qu'ils ont argumenté avec le Seigneur, et la parole du Seigneur n'est pas pour, est là pour argumenter. Pour ça, n'argumente pas assez facilement. Peut-être autrefois, quand j'étais jeune, oui. J'aimerais convaincre des hommes, mais aujourd'hui, non. Non. Pourquoi? Parce que je respecte la parole de Dieu. Si tu n'entends pas, alors tu n'entends pas. Qu'est-ce que je dois faire? C'est pour ça que Pierre dit aussi, quand tu viens à la parole de Dieu, tu dois d'abord enlever toute la méchanceté, tout ce qui est tourné, tout le péché, tout l'endurcissement de mon cœur, tout les disputes, la chair et toutes ces choses. Alors ensuite, nous venons comme un nouveau-né à la parole de Dieu. On est pur de la parole, mais si ton cœur n'est pas pur, alors tu viens à la parole, mais tu ne peux rien comprendre. Même si je te l'explique, tu peux tout de même pas comprendre. Alors tu vas avec la maison et tu penses, ta tête tourne à nouveau. Alors ensuite, il y a de nouveau des doutes qui viennent. Alors après, tu penses, ah, tu as raison. Ce n'est pas si facile d'aller juste avec la parole de Dieu. C'est pour ça que nous avons besoin de cette crainte, de ce respect du Seigneur. La crainte de l'Éternel est pure. Un cœur pur, c'est un cœur qui a du respect devant Dieu. Si tu le connais, alors tu tombes au sol. Même le frère Daniel, il a tant vu de ce Seigneur merveilleux qui est saint, et quand il a vu ce Seigneur, toute sa force, il a perdu toute sa force. Il était là comme un malade, comme s'il ne pouvait pas se bouger. Mais toi et moi, si nous lisons la Bible, alors, à la fin, nous sommes encore plus forts pour faire d'après notre volonté. C'est terrible. Une fausse réaction, une mauvaise réaction. Ça doit rester pour l'éternité. Ils sont vrais, les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Comment est-ce qu'un injuste peut parler, lire la parole droite de Dieu? Regarde ces avocats qui sont pas droits quand ils lisent la loi, il y a tout qui est tourné parce que l'homme est tordu. C'est pour ça qu'ils veulent jeter la Constitution à la fin. C'est quelqu'un qui lit la Constitution, qui lit la loi, il y a tout qui est tordu, tout qui est courbé. Est-ce que vous croyez aux avocats? Ces avocats, ils sont tous tordus. Ils ne sont pas pour la loi, ils sont contre la loi. Pour ça, c'est si important que nous venions à la parole du Seigneur avec un cœur ouvert pour que le Seigneur puisse nous purifier. Pourquoi est-ce que nous célébrons la fête des pains sans levain chaque matin? Je dois dire à mon cœur, Seigneur, enlève tout ce qui est dans mon cœur. C'est important. Droit de l'Éternel, jugement de l'Éternel sont vrais. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. La parole pure, pas seulement les purs de la parole, mais aussi de la nourriture solide, pure. Qu'est-ce qui est plus pur que la parole elle-même? Dis-le-moi. Nous mettons beaucoup de sel et de poivre. Et nos propres pensées, nous les mettons dedans, dans la parole de Dieu. Ils sont justes. La parole de Dieu est plus précieuse que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Est-ce que c'est vrai que la parole de Dieu est douce pour vous, ou est-ce que c'est amer? En tout cas, ça doit être doux dans la bouche. Alors quand tu la manges, ça devient amer. C'est efficace en toi. Alors ça expose ce qui est caché dans ton cœur si c'est amer. Mais ça doit en tout cas être doux dans ta bouche, n'est-ce pas? Plus doux que le miel, celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi reçoit instruction. Chaque jour, nous avons besoin d'un tel enseignement par cette merveilleuse parole, cette parole pure. Pour ça, le proverbe dit aussi comment un jeune homme doit se garder du péché. Comment? En ce qu'il garde la parole dans son cœur. Pas seulement un peu, mais richement, qu'il la garde richement, où c'est caché comme un trésor. Ta parole, je l'ai gardée dans mon cœur pour que je ne pêche pas contre toi. Sinon, notre cœur est plein de désirs de la chair, alors nous pêchons. Alors nous faisons d'après désir de la chair. Mais si la parole est riche comme dans Colossiens, que la parole de Christ habite richement dans vos cœurs, alors nous allons moins pécher. Parce que cette parole va nous garder, va nous fortifier, il va nous donner de la lumière. Oui. Nous voyons ici. Celui qui la garde, c'est une grande récompense. La loi est là pour que nous la gardions, pas pour que nous la respections pas. C'est pour ça que ces impies veulent enlever la constitution de ce pays. Ils veulent la loi du pays, ils veulent la changer. Est-ce que tu peux te représenter cela? Si la mafia change la loi, qu'est-ce qu'il y aura comme loi alors? Quelle loi vont-ils nous donner? Oh Seigneur, comment est-ce que tu veux recevoir cette récompense si nous ne tenons pas ferme à la parole de Dieu et nous ne faisons pas d'après la parole et nous ne marchons pas d'après la parole? Qui connaît ces égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux. Comme un seul péché, présomption. Est-ce que nous ne sommes pas tous présomptueux? La parole de présomption, c'est une merveilleuse signification. Ça veut dire que c'est mal compté. Tu comptes tout d'après ton standard, d'après des pensées humaines. C'est toujours trop court. La Nouvelle Jérusalem, cette ville sainte, elle est comptée avec une mesure en or. C'est vivant. Un tuyau. C'est vivant. C'est un standard vivant. Mais tu mesures d'après ta mesure humaine. Ça veut dire que ça ne va pas. Alors si tu mesures, alors il y a toi qui va. tu es présomptueux. Alors, il y a tout qui est valable. Alors, tu as aussi la paix de faire tout ce que tu veux. Aussi le péché de présomption. Garde ton serviteur loin de ça. Pas à quelques mètres plus loin. Parce que sinon, tu reviens directement là. Loin de là, qu'il ne me domine pas. Qu'est-ce qui règne sur toi, la parole de Dieu ou ta présomption? Le péché de présomption. Pour ça que tu as des problèmes, pour ça que j'ai des problèmes dans la vie de l'Église personnelle, parce que nous sommes si présomptueux, tu mesures depuis ta mesure. Je mesure avec mon standard. Alors ensuite, nous nous disputons. Et ensuite, nous nous mesurons les uns les autres. Tu me mesures. Et je te mesure. Il y a beaucoup de choses qui ne me plaisent pas en toi. Et comment est-ce que nous bâtissons l'Église? Chacun a son standard. Alors, comment, à quoi l'Église doit ressembler? Nous disons, nous sommes l'Église. Qui est le standard dans l'Église? Sion. Est-ce que nous voulons bâtir Sion? D'après quel standard est-ce que tu es Sion? Qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Vous voyez, quand nous, avec notre propre standard, nous mesurons tout, ou mesurons, alors nous faisons de grands péchés contre Dieu. Contre Dieu. Est-ce que nous n'avons pas de crainte devant Dieu? Aujourd'hui, j'ai peur de tourner un peu la parole. Qui suis-je pour faire cela? Pas le Seigneur. À la fin de la Bible, nous a averti celui qui ajoute. Celui qui enlève quelque chose à la parole de Dieu, alors je veux lui enlever la part à l'arbre de la vie. Est-ce que ce n'est pas assez sérieux? C'est pour ça que nous devons apprendre, pas seulement de lire la Bible, mais aussi d'apprendre avec quelle attitude. Avec quelle attitude. Alors, notre parole, laisse les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, reçois favorablement les paroles de ma bouche. Ô Éternel, le Seigneur, notre Sauveur, le Dieu Saint, mon rocher et mon Rédempteur. Alors, notre parole dans la maison du Seigneur, c'est égal où nous sommes, à la maison, à la famille, entre nous, avec la femme, avec les enfants, avec les parents. Alors, ce sera agréable devant le Seigneur. Si à la maison tu parles différent qu'à la réunion, tu es un hypocrite. Ô Seigneur, combien ta parole est importante. Et cette parole va nous sanctifier. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. C'est notre standard. Ne sois pas présomptueux. C'est un péché, c'est un grand péché. Et si nous sommes présomptueux, alors nous aurons encore de plus grands péchés. Pour cela, nous devons avoir peur. C'est pour ça que Paul a dit, comme ce matin, les frères ont déjà dit plusieurs fois, dans 2 Corinthiens 7, verset 1, nous devons être sanctifiés pour être parvenir à la perfection. Comment ? Par la parole et dans la crainte de Dieu. Si la parole de Dieu, sa droite, si tu n'as pas de crainte devant cela, tu n'as pas de respect, alors de ta lecture, c'est égal combien ce que tu lis, ça n'a pas d'effet. Comment tu connais, comment tu dois conduire, la loi est si claire, mais tu conduis différemment. Tu ne conduis pas d'après la loi. Ça, c'est le problème. Alors, à quoi ça te sert, la loi? Nous disons, nous sommes en esprit. Mais ensuite, tu ne respectes pas la loi. Est-ce que tu penses qu'un homme spirituel ne respecte pas la loi? Comment un homme doit être spirituel? Et ensuite, il fait tout ce qui est contre la loi. Tout ce qui est contre la loi de Dieu. Est-ce que tu es en esprit? L'ordre est si merveilleux. Notre Dieu est saint. J'apprécie le partage simple et une parole pure de Dieu pour pouvoir montrer comment est-ce que nous devons être saints. C'est écrit partout. Aussi dans Pierre, combien souvent Pierre dit « Le Dieu saint dans votre cœur », c'est une citation d'Ésaïe. Si tu as du temps, alors tu dois chercher la parole de Dieu ou la sanctification. Ce mot saint, il est. Soyez saints, car je suis saint. C'est dans Lévitique, particulièrement les sacrificateurs. C'est ce qu'il a dit. Il n'y a pas un sacrificateur qui n'est pas saint, qui ne devrait pas être saint. C'est la qualification d'être un sacrificateur. Oui. Si quelqu'un dit, non, pas tout le monde peut être un sacrificateur, alors je dois être amené. C'est quoi la qualification? Ah, il doit tant savoir. Non, il doit être saint. Ça veut dire, si tu dis, alors tu n'es pas qualifié, alors je peux dire oui, parce que tu n'es pas saint. Mais ensuite tu dis, ce frère dit, oui, nous sommes un royaume de sacrificateurs, mais pas tout le monde est des sacrificateurs. Il y a une nation sainte, c'est du non-sens. Comment est-ce que tu peux un royaume de sacrificateurs être un royaume de sacrificateurs et pas une nation sainte? Et si tu es une nation sainte, alors nous devons tous être saints et des sacrificateurs. Pourquoi dans le Nouveau Testament, Paul nous a appelés les saints? Frères, est-ce que nous n'appelons pas les saints saints? Comment est-ce qu'ils vont, les saints? Les saints, chers saints, nous nous appelons saints. Nous appelons les saints. Est-ce que j'ai la... Est-ce que je peux... Est-ce que je suis digne d'avoir ce nom? Est-ce que je suis saint? Oui, saint, dans le sens que je suis appelé. Oui, oui, ok. Ça, j'accepte. Mais la sanctification a beaucoup de signification. Ça va encore plus profondément que si je suis juste élu, appelé, né de nouveau, sauvé. Comment est-ce que c'est avec la marche? Qu'est-ce que dit Pierre? soyez saints dans toute votre conduite, comme le Père est saint. Est-ce que tu penses que le Père est parfois saint? Dans les cieux, il y a ces séraphins, les quatre êtres vivants qui disent seulement toute la journée, qui disent seulement un mot, mais trois fois. Quel était ce mot, frère? Saint, 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 saint. Et combien de fois est-ce qu'ils l'ont dit? Plusieurs fois, sans fin. Seulement la journée, en éternité, aussi la nuit. Oh oui, il n'y a pas de nuit de toute façon. Saint, 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 saint. Ah, arrête, frère. Non, c'est merveilleux. Mais ça, tu ne le dis jamais ainsi. Ça, nous ne le disons pas. Pourquoi est-ce que ces quatre êtres vivants disent toujours « saint, saint, saint » parce que nous, les hommes, nous sommes si déchus, nous sommes improfanes. Nous disons chaque jour, nous disons « sans mot, profane, profane, profane ». Tu n'as même pas besoin de le dire parce que tu es pas saint, tu es profane. Toute la création de Dieu est déchue. Les hommes, les animaux, toute la création. C'est pour ça qu'il y a les quatre êtres vivants. Dieu aimerait les sanctifier. Mais Satan est venu et a amené son péché, son être profane en nous, pas saint. Et nous pensons que nous sommes si bons. Il n'y a aucun qui est saint, même pas un. Aussi quand nous avons été sauvés, aussi après que nous avons été nés de nouveau. Pourquoi est-ce que Paul nous a appelés les saints pour nous rappeler tu dois être saint comme le Père est saint? Comme celui qui nous a appelés est saint, alors nous devons aussi être saints. Nous disons nous sommes l'Église, mais qu'est-ce que nous sommes pour une Église? Une Église profane, il n'y en a pas. Une nation pas sainte, le Seigneur va le négliger comme le peuple d'Israël. Autrefois, la nation d'Israël, quand ils étaient devenus si profanes, si pas saints, alors est-ce qu'ils sont toujours la nation de Dieu? Il les a détruits, il a envoyé, il a invité Nebuchadnezzar pour tout détruire. Et il a invité Titus pour détruire toute la nation. Et le Seigneur a dit même à l'église à Éphèse, si vous vous abandonnez le premier amour et vous ne vous repentez pas, alors j'enlève le chandelier d'or de toi. Qu'est-ce que c'est pour un chandelier dans les chandeliers d'or? Ce n'est pas une église sainte, ce n'est pas une église. Et tu penses que tu es toujours l'église. Qui juge? Qui dit qui est l'église? C'est lui qui dit, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, ce n'est pas les anciens. À quoi ça te sert si nous disons, nous sommes l'Église? Mais le Seigneur dit, non, tu n'es rien. Qui a raison? Qui a raison? D'après ta mesure, tu es l'Église. D'après ce tuyau de mesure en or, je ne sais pas ce que tu es. C'est pour ça, c'est si bon. Cette sanctification et la parole de Dieu, ce temps, ces messages, ces deux merveilleuses paroles sont si justes. Elles vont ensemble. Je remercie le Seigneur pour les frères fidèles. Ça touche mon cœur. J'ai besoin de la parole. Je dois entendre cette parole. Oui. Alors, nous pouvons bâtir Sion. Dans cet ordre est important. Dans une demi-heure, nous ne pouvons pas parler de Sion. Ce n'est pas possible, frère. Mais je fais confiance au Seigneur, que le Seigneur, par le Saint-Esprit, par l'onction, puisse ouvrir nos yeux et vous le montre. Et là, dans l'épître de Pierre, Sion, en quelques mots, il a tout dit. Premièrement, nous avons besoin de Christ, pas seulement comme rédempteur, pas comme sauveur, seulement comme sauveur, mais comme une pierre vivante qui est si précieuse pour Dieu. Pas précieuse en lien avec le salut. Le salut, c'est précieux, bien sûr. Parce que nous sommes déchus, des hommes déchus, nous avons besoin de salut. Parce que sinon, nous serons perdus éternellement. Mais je dois aussi connaître Christ, ce qui est si précieux pour Dieu. Pourquoi ? Pour l'édification de l'Église, pour l'édification de Sion, d'être une pierre vivante. Le Seigneur est venu pas seulement pour nous sauver, le Seigneur est venu pour la maison de Dieu. Qu'est-ce qui a brûlé dans son cœur par les pécheurs qu'il a vus ? Ensuite, il y a son cœur qui a brûlé. Non, son cœur a brûlé pour la maison du Dieu vivant. Qui est-ce qui a brûlé dans son cœur ? C'est Sion. Sion. C'est pour ça, le début de l'Évangile, c'est pas seulement « Repens-toi parce que vous êtes pécheur ». Ça, c'était pas le début de cet Évangile. Le début de l'Évangile de Matthieu, c'était « Repens-toi parce que le royaume des cieux vient, parce que Sion vient ». Et nous devons prier, « Père, ton royaume vienne ». C'est le premier, pas seulement Père, que beaucoup d'hommes soient sauvés. Père, notre Père dans les cieux, ton nom doit être glorifié, ton royaume doit venir, Sion doit venir sur cette terre. Ta volonté doit s'accomplir. Quelle est sa volonté? Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Nous sommes l'Église, l'Église. J'aimerais ce matin vous rappeler, l'Église, ce n'est pas un nom, c'est seulement une réunion. Pour ça que beaucoup de saints, pour beaucoup de croyants, pour tous les croyants, l'Église, c'est pour eux seulement une réunion le dimanche. Mais Sion, ce n'est pas seulement une réunion. Sion, c'est la ville du grand roi. C'est la montagne sainte. Dans le psaume 2, j'ai oint mon roi sur ma montagne sainte. Ici, c'est là qu'est le roi. Pas le pape. Quelqu'un qui dirige, qui a une grande position et tout le monde doit l'entendre. C'est pas le cardinal. Sion, directement au psaume 2, dans le psaume 2. Et nous devons le craindre. Nous devons le roi, le fils, le oint. Nous devons l'aimer, le baiser, parce que sinon Dieu a averti, sinon vous allez être jugé. Ça, c'est Sion. J'ai tant de versets dans les psaumes. Vous avez la Bible, vous pouvez. Vous n'avez pas besoin de moi. Vous n'avez pas besoin de moi pour chercher dans la Bible. Vous pouvez chercher vous-même. Si la beauté du Seigneur. Belle est la ville de Sion, plus grande dans l'univers, du côté du nord. Le nord, c'est le plus haut. C'est là où le roi habite. C'est la ville du grand roi. C'est une montagne sainte. Et Dieu est saint à Sion. Aussi dans Ésaïe, après rassembler les versets, c'est une ville sainte. Jérusalem, c'est une ville sainte. Sion, c'est une ville sainte. Pour ça que le Seigneur aimerait avoir une église sainte, sans tache, glorieuse. Nous parlons, nous sommes l'église, mais quoi comme église? Même si vous dites vous êtes sur le terrain, alors le terrain, c'est seulement quelque chose de sale. Est-ce que nous sommes saints? Est-ce que nous sommes sans tache? La fondation du monde, Dieu nous a élus pour que nous devions les enfants de Dieu. Est-ce que c'est ça? Non, afin que nous soyons saints, sans tache, pour nous tenir devant lui dans l'amour. Les frères ont raison. Si nous n'aimons pas le Seigneur, alors tu ne peux pas être... Si tu aimes le Seigneur, alors tu dois aussi aimer sa parole. Et faire d'après sa parole. Alors là, nous devons bâtir Sion. Pour cela que nous devons connaître le Seigneur, qu'il n'est pas seulement cette pierre vivante, pas seulement le Sauveur, pas que nous soyons seulement nés de nouveau. C'est pour ça que le Seigneur est si précieux pour Dieu. Il est si précieux, mais ces Juifs, autrefois, le peuple de Dieu, Dieu les a appelés comme les constructeurs. Qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes des constructeurs. Nous ne sommes pas seulement des constructeurs, mais nous sommes des constructeurs saints. Comme Pierre a dit, des femmes saintes, alors nous devons aussi avoir des frères saints, des hommes saints, des enfants saints. Pourquoi pas? C'est pour ça, saint, 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 saint. C'est pour ça qu'il a dit la sainteté, le sanctuaire. C'est pour ça, c'est le saint des saints. Il n'y a pas seulement le sanctuaire, le lieu saint, mais si tu es dehors, alors c'est pas si saint dehors. Si tu entres en tant que sacrificateur, tu dois être saint. Alors tu dois encore aller plus proche au saint des saints. Est-ce que c'est pas merveilleux? Est-ce que ça nous dit pas quelque chose? Comment est-ce que je peux, moi qui suis pas si saint, peut entrer dans le saint des saints? Alors on doit me sortir mort de ce lieu. Alors je reste plutôt dehors pour que je puisse encore respirer. Sans crainte de rentrer devant le trône de la grâce. Ok, je viens comme je suis. Non, je dois laisser mon sang être aspersé d'une mauvaise conscience. Mais si je pense, j'ai pas de problème, je prends le sang, j'ai le sang et je rentre. Non. Alors, mon corps doit encore être purifié avec l'eau pure de la vie. Parce que je suis impur. C'est pour ça qu'il y a une cuve. Alors, je dois encore avoir des habits purs, des habits de sacrificateur avant que j'entre. Alors, je peux entrer sans crainte, m'approcher. Tu ne peux pas seulement lire Hébreux 4 et ensuite Hébreux 10, 19, qu'on puisse entrer sans crainte, nous approcher. Non, tu dois continuer de lire verset 22. Tu lis si peu. Il y a beaucoup de conditions. La sanctification est si importante. Nous ne devons pas seulement être des constructeurs. Autrefois, quand Jésus était là, il y avait les constructeurs qui n'étaient pas seulement profanes, mais ils étaient si méchants. Ah, comment est-ce que les vipères peuvent construire le temple de Dieu? Tu veux être, bâtir la maison de Dieu avec la chair? Je vous dis, alors je dois pleurer. C'est pour ça que ça n'a pas fonctionné jusqu'au jour d'aujourd'hui. Chacun pense qu'ils sont la maison de Dieu. Chacun. Même les dénominations, même l'Église catholique. Bien que c'est une maison du diable, alors il s'appelle la maison de Dieu. Bien que le diable habite là. Mais ils disent, c'est la maison de Dieu. Chacun dit cela. Maintenant, je ne peux même plus dire que nous sommes Sion. Mais je dis, Seigneur, nous voulons devenir Sion. Ça ne me joue pas drôle si je dis, nous sommes Sion. Si le Seigneur dit, non, vous n'êtes pas. Alors, vous n'êtes peut-être pas encore. C'est seulement valable si le Seigneur vient et il dit, vous êtes quand le juge vient. Le Seigneur est le juge dans le Genèse, c'est celui qui juge les vivants et les morts. Juge des vivants et des morts. Il est lui-même le juge. Ceux qui sont vivants, nous sommes vivants, mais il y a aussi les morts. Le Seigneur va tous les juger. C'est pour ça que Paul dit ne jugez pas si vite. Attendez. Le jugement vient encore. Ce n'est pas ce que tu dis aujourd'hui qui est valable. Sinon, tu es déjà déchu. C'est pour ça, frère, nous devons nous humilier devant Dieu. Les constructeurs, ils ont rejeté cette pierre angulaire. Le Seigneur est venu pour Sion, pour le temple, pour le temple saint, la maison, pour bâtir la maison spirituelle. Ce n'est pas des pierres mortes. C'est pour ça que le Seigneur est si précieux en tant que pierre. J'aimerais pas seulement expérimenter le Seigneur comme ma vie, mais cette vie doit faire de moi une pierre qui est ferme. Une pierre, c'est ferme. Si le pain allemand n'est pas assez ferme, tu ne peux pas construire une maison avec un pain allemand. Du pain américain non plus. Il est plein d'air. Mais avec des pierres terrestres, ça ne sert à rien non plus. Rappelez-vous, nous sommes de la poussière, ça ne va pas non plus. Des pierres vivantes, c'est pas encore non plus, ça ne suffit pas encore, ça doit être transformé. De pierres précieuses, et ça, c'est ce que Pierre a compris, parce que le Seigneur a transformé son nom de Simon à une pierre. Il a fait de lui une pierre. Si j'étais Pierre, alors je n'aurais jamais oublié ce changement de nom. La vie signifie transformation. Vraiment. Regarde. Frère, quel âge as-tu? 61, je crois. Ah, encore si jeune. Je souhaiterais avoir 61 ans. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Dans ces 61 années, parce que tu es une personne vivante, tu n'es pas un homme mort. À la fin, on est plein de vers. Et ça ne sent pas bon. Mais si tu es vivant, tu te changes. Tout change tout le temps. La vie ne reste pas toujours la même. Une pierre vivante se transforme toujours. Il y a 40 ans, quand je t'ai rencontré, tu étais encore jeune. Ah oui. 17. Mais aujourd'hui, tu n'as plus de cheveux. Et c'est en ordre. Nous nous transformons tout le temps parce que nous sommes des personnes vivantes. Est-ce que tu penses qu'une pierre vivante reste toujours ainsi, il n'y a pas de transformation? On n'est pas seulement vivant, actif. Actif ne signifie pas vivant. Ça, c'est notre représentation. La vraie vie, aussi la vie d'une plante, elle grandit. Elle va toujours être renouvelée. Les morts vont être coupés. Tout ce qui est mort va être coupé. Et ensuite, ça grandit, ça sera frais et vivant. Et ça met des fruits. Même les animaux se transforme parce que c'est vivant. Si quelque chose est vivant, alors il y a chaque jour des transformations. Transformation. Changement. Mais regarde l'Église. Année après année, nous restons les mêmes. Ça, c'est pas la vie. Même, oui, nous avons des changements, mais qui vont dans le mauvais sens, qui sont plus mauvais. C'est aussi une transformation. Le peuple d'Israël aussi a été transformé. Pas de gloire en gloire, mais de choses pas saines en choses pas saines. Ça, c'est aussi une transformation. Au début, c'était bon, à la fin, c'était mort. Mais si c'est l'esprit et la vie en nous tous, alors nous voyons de gloire en gloire. Nous voulons encore plus apprécier Christ comme pierre angulaire. Nous avons été mis ensemble par Jésus-Christ. Mais est-ce que vous êtes vraiment amenés ensemble dans l'Église en Europe? J'ai vu. Toujours tout qui est venu les uns avec les près les autres, il y a toujours de moins en moins. Et à la fin, on n'est pas amené ensemble, mais on tombe éloigné les uns les autres. Ce n'est pas seulement Satan, l'accusateur des frères, mais nous accusons les uns les autres, alors Satan ne doit pas t'accuser. Mais nous avons déjà assez d'accusateurs dans l'Église. Est-ce que tu es un accusateur, frère? Satan attend d'aide. D'aide. Des aides. Plus besoin de t'accuser. Pourquoi? Parce qu'il attend tant d'aide dans l'Église. Alors, il peut déjà se reposer. Oui, Mais là, je peux déjà me reposer. Il y en a assez qui font ce travail pour moi. Est-ce qu'il y a à Feigen pas de cas d'accusateur? Est-ce qu'à Zurich, est-ce qu'il n'y a pas d'accusateur? En Suisse, il n'y a pas d'accusateur? En Allemagne, il n'y a pas d'accusateur? Est-ce que Satan, c'est le seul accusateur? Comment est-ce qu'il nous accuse? Par toi. Comme le Seigneur a besoin de toi, est-ce que tu penses que Satan pas? Satan a aussi besoin d'hommes. Nous pouvons, de cette manière, pas bâtir Sion. Ne pense pas que c'est si facile de construire Sion, non, bâtir Sion. Nous devons cette pierre angulaire que Dieu a tant appréciée. Est-ce que tu apprécies toutes les pierres vivantes dans l'Église? Ou est-ce que tu es heureux quand ils partent? Tu es même heureux qu'il n'est pas là. Alors, il n'a pas besoin de venir pour avoir la communion avec toi. Qui es-tu? Nous sommes présomptueux. Nous sommes tous si présomptueux. De bâtir Sion. Oh Seigneur, si ça avait été si facile, alors ce serait déjà passé il y a si longtemps. Oui. Oh Seigneur Jésus. Pour ça que nous avons besoin de cette pierre précieuse qui est si précieuse, mon Dieu. Ça doit être aussi pour chacun d'entre nous, ça doit être précieux. Si tu vois cette pierre, qu'est-ce que le Seigneur a payé comme prix? Et quel prix est-ce que tu as payé pour Sion? C'est pour ça que tu ne penses pas tant que c'est précieux parce que tu n'as pas payé. Tu as reçu tout en vain, gratuitement. Grâce sur grâce, et tu penses que tu mérites cela. Tu mérites d'être là, les autres pas. D'être amenés ensemble, seulement sortant de la tête de cette pierre angulaire. Paul ne dit pas différemment. Nous devons d'abord grandir avec lui, ensuite de lui. Il y a toutes les parties, tous les membres qui vont être ajoutés fermement ensemble. Sans la vie, nous ne pouvons pas être ajoutés les uns aux autres. À un moment, on sera séparés parce que si l'homme est mort, alors il y a seulement les os qui restent. Est-ce que vous n'avez pas vu des os morts, cette vision? Ça, nous devons aussi voir cette vision. Dans Ézéchiel. Qu'est-ce qui est plus facile? D'être comme des hommes morts, d'être ajoutés ensemble. Pour cela, nous avons besoin de la vue de résurrection. Nous avons besoin tout le temps de ce vent de la vie, ce souffle de vie, et pas seulement une fois, mais chaque jour, plusieurs fois. Alors, nous devons être annoncer, le vent vient, souffle sur ses os. Et nous ne répondons pas, nous pensons, ah, le Seigneur, je suis désolé, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ah, je suis désolé. Désolé? Qu'est-ce qui se passe après que tu sois désolé? Alors nous devons revenir et faire ce qui est juste. Parce que sinon, il n'y aura pas de transformation dans ton être, que je ne serai pas saint, alors nous ne pouvons pas expérimenter cet esprit vivant. Parce que nous sommes toujours trompés dans l'esprit. Comment est-ce que nous pouvons être vivants? Dis-moi. Si la parole ne parle plus en nous, n'est plus esprit et vie. Quelqu'un l'a dit justement. Si je n'obéis pas à la parole de Dieu, alors comment est-ce que je peux entendre la voix du Saint-Esprit? C'est dans la parole, c'est déjà écrit si clairement. Alors je n'ai pas plus besoin d'avoir une voix. Mais si je ne prends pas garde à la parole de Dieu, ce n'est pas non plus nécessaire pour que le Saint-Esprit me parle. C'est pour ça que la parole, l'esprit doit toujours aller ensemble. L'esprit en toi, la parole devant toi. Et ces deux doivent toujours être en accord ensemble. En tant que pierre vivante. Et prends garde cette pierre. Si nous ne prenons pas garde, alors ça deviendra une pierre d'achoppement pour toi. Alors ça dépend. Qu'est-ce que tu veux? Beaucoup ont pris pierre d'achoppement sur la parole de Dieu. Quand nous avons parlé du service sacerdotal, nous devons être des véritables adorateurs. Beaucoup ont pris pierre d'achoppement. Est-ce que vous n'avez pas fait des expériences, les frères, à Feigen? Est-ce que ce n'est pas écrit dans la Bible? Un saint sacerdoce? Une maison spirituelle pour offrir des offrandes spirituelles? Non, ça, nous n'avons pas besoin aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance. Mais c'est écrit ce que nous devons faire. Ils sont prêts. C'est devenu une pierre d'achoppement. Si nous et cette pierre précieuse, Jésus, pour le plan de Dieu, ne pense pas que nous savons tout. Non, aujourd'hui, je te dis, plus je sais que je ne sais pas. Alors, je dois tout le temps faire confiance en lui et de dire, Seigneur, ouvre mes yeux. Renouvelle mes pensées. J'aimerais savoir. Parce que le futur se tient devant moi. Est-ce que tu sais ce qui va t'empêcher demain? Est-ce que tu sais comment est-ce que nous pouvons bâtir Sion? Est-ce que ça suffit? Non. Le Seigneur n'aimerait pas faire tout, montrer tout en une fois. Ce n'est pas le chemin du Seigneur. Il montre pas après pas. Si nous sommes si fiers et nous pensons que nous avons déjà tout, nous n'avons pas rien besoin de nouveau. Alors un frère a même donné un message. Nous avons seulement besoin de réchauffer la vieille soupe. Ça nous suffit. Pour toi, peut-être, ça suffit, mais pas pour Dieu. Qui est ouvert et reçoit quelque chose nouvellement du Seigneur, des choses que nous ne savons pas encore, des choses grandes, insondables. Est-ce que tu penses que Jésus n'a plus rien à nous dire aujourd'hui? Ces frontières, est-ce que tu es déjà allé à ces frontières? Alors, est-ce que tu sais déjà tout? Je te félicite. Alors, tu vas prendre une pierre d'achoppement quand le Seigneur te montrera quelque chose de nouveau. Non, ça, c'est pas possible. Alors, tu sais mieux que Dieu? pourquoi est-ce que nous devons à la réunion amener ces offrandes au Père à Jérusalem? Pourquoi? Parce que la parole le dit. Ah oui, je peux en tout temps, en tout lieu, amener une offrande à Dieu. Qui c'est qui dit cela? Aussi dans la douche, alors tu peux amener une offrande. Oui, fais cela. Alors Dieu va te t'envoyer de l'eau chaude, bouillante, pour que ta tête cuise. Sur ta tête qui est bête. Alors, cette pierre angulaire va devenir une pierre de déchets, va tomber sur toi. Il va te détruire, mettre en pièces. Nous sommes si présomptueux, chers frères. Désolé si je parle des fois si fort, parce que sinon ça ne rentre pas dans la tête, parce qu'elle est si dure. C'est la partie la plus dure du corps humain. Elle est dure comme une pierre. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Si nous prenons une pierre d'achoppement, alors nous détruisons l'édification de Dieu. Nous détournons les saints, mais le pire, c'est que nous empêchons que Dieu bâtisse sa maison par des pierres vivantes. Ça, ce que Pierre veut nous dire. Pour ça, le message d'avant est si important. Si important, chers frères. Oui. Il y a beaucoup qu'on pourrait encore avoir de la communion, mais nous n'avons pas de temps. Mais ça ne fait rien. L'Esprit va vous montrer. Sion, pas tout le monde, mais c'est la chose de Dieu. Et à la fin, tu vas voir que même nous voyons dans Apocalypse 14, nous nous tenons avec l'agneau sur la montagne de Sion, devant le trône de Dieu. Ça, c'est le but final. Sion, Jérusalem, c'est une ville sainte. Pas une grande ville, mais une ville sainte. Jérusalem, dans Apocalypse 1. Dans Apocalypse 21, il est dit Saint Sion. Ces deux noms, nous ne devons plus les oublier. Sion, cette ville, la ville du Dieu vivant, du grand roi. Jérusalem, la ville de la paix. Saint. Et un royaume. Louez le Seigneur. C'est pas un appartement, c'est un royaume. Le Seigneur va régner sur toute la terre. Aujourd'hui à Sion, quand le Seigneur ne règne pas sur ma vie, alors comment est-ce que nous pouvons régner avec le Seigneur sur les nations? Si aujourd'hui je ne suis pas prêt de me laisser régner par lui, alors comment est-ce que je peux régner avec lui quand le royaume viendra? Dans la vie de l'Église, ô Seigneur, qu'est-ce que vous voyez à la vie de l'Église? Qu'est-ce qu'est la vie de l'Église? Le Seigneur, être miséricordieux avec nous. Nous avons beaucoup à apprendre, beaucoup à faire, mais peu de temps. J'espère que nous apprenons tous. Pas seulement d'avoir une conférence. Et ensuite, nous oublions. Non. Amen. Le temps est passé. Nous avons besoin de plus de temps pour parler de Sion. On a encore parlé plusieurs fois de Sion, de pouvoir creuser. Une merveille, une montagne sainte. Dans le psaume 99, par exemple, le Seigneur est grand. Le Seigneur Dieu, Dieu est saint à Sion. Et ça, nous devons le reconnaître. Trois fois, quatre fois. Psaume 99, Dieu est saint à Sion. Dieu est grand à Sion. Et Sion, son royaume, il y a le jugement. Il y a la justice. Dieu juge là. La loi de Dieu est là. Pourquoi est-ce que Dieu a donné des lois au peuple d'Israël avant qu'ils rentrent dans le bon pays? Pourquoi est-ce qu'ils ont donné la loi? Parce que c'est un royaume. Et un royaume, sans constitution, ce n'est pas un royaume, parce que chacun fait ce qui est juste devant ses yeux. Nous avons des commandements dans la parole. Prends garde aux commandements, chers frères et sœurs. Frères, prenez garde aux commandements du Seigneur. Alors, nous pouvons bâtir Sion ensemble. Alors, nous allons être une nation sainte. Une nation sainte, c'est pas si facile. Il y a tout qui est pas saint, comme le frère a partagé. Regarde tout ce monde, il est pas saint. Alors, nous sommes exactement les mêmes. Alors, nous devons exactement être le contraire. Plus ils sont pas saints, alors bien plus nous devons être saints. Et pas directement être rendu semblable à ces hommes. Oh Seigneur Jésus. Parfois nous sommes, si on regarde à nous, nous sommes nous sommes les souris d'église. C'est comme ça qu'ils disent en allemand. Est-ce que tu peux te représenter cela? Louez le Seigneur. Nous sommes un peuple particulier, mis à part. Un peuple saint. Un peuple qui lui appartient. Qu'est-ce que tu penses? Si nous sommes possession de Dieu, est-ce que tu penses que Dieu aimerait avoir une possession qui n'est pas sainte? Qui n'est pas sainte? Ou si nous ne sommes pas saints, comment est-ce que nous pouvons annoncer les vertus de celui qui nous a appelés, n'annoncer à toutes les nations? C'est les hommes, les nouveaux, les étudiants, ceux qui cherchent, viennent à Feingen, viennent à Zurich, qu'est-ce qu'ils voient? Quand ils voient Pforzheim, quand ils viennent à l'église, à la Jérusalem céleste, est-ce que nous sommes vraiment célestes ou est-ce que nous sommes terrestres? Le nom ne suffit pas. Il doit voir une Sion sainte, céleste, la ville du Dieu vivant. Et rappelez-vous là, Dieu, c'est le juge de tous. Pierre a dit, Dieu est juge. Et le jugement commence dans la maison, par la maison de Dieu, n'est-ce pas? Et même, qui est le juge? Dieu est le juge. Même notre Seigneur a laissé le jugement au juste juge, et toi, tu juges directement. Si c'est un frère ou une sœur, les sœurs jugent parfois encore plus strictement que les frères. Oui. Malheureusement, c'est ainsi. Nous puissions nous repentir. Nous puissions apprendre, que nous puissions revenir. Repentir pour que Sion soit bâti. Il n'en vient pas de toi personnellement ou moi personnellement. Combien souvent j'ai prié au Seigneur, demandé, Seigneur, garde-moi ferme, pas pour ma volonté, mais pour la volonté des autres. Que le Seigneur nous soit miséricordieux. Amen. À demain soir. Le temps passe. Louez le Seigneur.